Il y a une histoire dans la Gemara terrible. Il y avait un grand rabbin, qui s'appelait Rav Rechoumé. Il étudiait la Torah toute l'année. Et il rentrait à la maison une fois par année. C'était bon, c'était des gens pas du degré d'aujourd'hui et on ne conseillait à personne de faire la même chose. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, donc ce Rav Rechoumé étudie la Torah toute l'année et il rentre une fois par année chez la maison Yom Kippour. Évidemment, sa femme, qui est presque une veuve 364 jours par année, attend impatiemment que son mari revienne. Et lui étudie, il est dans le feu de l'action, la veille de Yom Kippour, le matin, 9h, 10h, 11h, midi. Et pour arriver chez la maison, ça prend quand même 2 heures de marche. Midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, il est en plein dans l'action. Et ce coup, il se réveille, il voit que trop tard pour arriver à la maison. Sa femme, qui attend par la fenêtre de voir que son mari arrive, elle voit que la fête rentre, Yom Kippour est rentré, et son mari n'est pas arrivé. Alors une larme a coulé de ses yeux. À ce moment même, dit la Gemara, le parterre de la yeshiva dans laquelle étudiait Rav Rechoumé s'est ouvert, il y a eu un éboulement, et il est tombé par terre et il est mort. Pourquoi ? Parce que Rav Rechoumé a transgressé un interdit de la Torah qui s'appelle « Lo tonu ish et amito ve'eretam elohecha ». Vous ne ferez pas de mal à votre prochain. « Ona'at dvarim » s'appelle une « ona'a », faire du mal. Avec la parole, avec des actions, ou avec un manque d'action qu'il aurait dû faire. On fait du tort, on fait du mal à son prochain. C'est un lave, une interdiction de la Torah, au même titre, et sûrement beaucoup plus grave que de manger du porc ou autre chose. V'yaretam elohecha, et tu auras la crainte de ton Dieu. Ça veut dire que très souvent, on peut faire des choses qui ont l'air innocentes, ou on fait comme si on n'était pas au courant, et on veut faire du mal à un autre prochain. Alors, on te dit, tu auras la crainte de Dieu, parce que Dieu, il voit exactement quelle est ton intention là-dedans, et ce sont des choses qui sont très graves. Preuve en est, ça demande le Rav Chaim Shmulevitz, il pose une question, je ne la comprends pas. La femme, elle était presque veuve. Elle avait quand même un mari une fois par année. Maintenant, elle est complètement veuve. Tu demandes, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Qu'il vienne quand, l'année prochaine, ou reviendra après, ou il viendra après Kippour, le lendemain. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Bon, je viens maintenant, je reste à la place de Kippour, je reste un jour supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a préféré? D'avoir son mari ou de perdre son mari? Bien sûr qu'elle a préféré garder son mari. Comment ça se fait que maintenant, du ciel, on lui fait une punition beaucoup plus grave, répond le Rav Chaim Shmulevitz, ça c'est Onat Dvarim. En ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, c'est du feu. C'est une machine qui fonctionne tout seul. T'as fait du mal à quelqu'un, ça agit, c'est du feu. Bien que ça agit peut-être de façon qui est pas comme t'aurais voulu toi, mais c'est terrible. Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch qui nous parle ici, Rosh Mishpat, chapitre 228. Dit, de même qu'on peut faire du tort à son prochain dans les affaires, parce que le Rosh Mishpat parle des affaires, en général, de même il y a un interdit de faire du tort, du mal à son prochain avec la parole, ou avec les actes, ou comme on va voir dans toutes les façons qu'on peut faire. Et plus grave est le fait de faire du tort à son prochain avec la parole qu'avec l'argent. Chez Zenitan et Chavon, que l'argent, t'as roulé quelqu'un, tu peux dire, écoute, j'ai fait, tu vois, excuse-moi, je t'ai vendu une voiture qui était de la Camelot pour une somme de 20 000 francs, elle vaut que 10 000 francs, tiens, je te paye les 10 000 francs, excuse-moi, je peux rendre. Mais la douleur que je vais faire à quelqu'un, comment je peux la lui rendre? Jamais. Je peux demander, excuse-moi, pardon. Mais la douleur qu'il a eue, et des fois ce sont des années de douleur, je pourrais jamais lui rendre. Donc c'est beaucoup plus grave. Alénéa, un peu plus bas, c'est-à-dire que l'Israël, bonat ishto, faut faire spécialement attention de ne pas faire du mal à sa femme. Les filles, c'est dimata, metsuga, parce que facilement, elle se met à pleurer. Voilà, d'accord. Et dans le ciel, on n'aime pas les larmes. Ça fait pleurer ta femme. Pour un des points, un rien. C'est du feu. D'ici, les commentaires de Shulchan Aruch.
nous disent Sharei Hona'a lo ninalu. Tous les portails dans le ciel sont fermés. C'est-à-dire que pour que Dieu écoute une prière, il faut prendre un bélier et boum! Il y a un portail qui est ouvert. Ça, c'est ta prière, ça marche, c'est reçu tout de suite. C'est Sharei Hona'a, portail de Hona'a qu'on m'a fait souffrir. Quelqu'un m'a fait du mal et quelque part, je dis à Dieu, Dieu, je souffre. C'est pas normal. Pourquoi? Ça, dans le ciel, c'est terrible. Ça retombe tout de suite sur la tête du type qui a fait ça. C'est-à-dire à la seconde, ou rapidement, Dieu s'occupera du type qui n'a pas fait attention à son prochain et lui a fait du mal. Donc, faire très attention à cette chose-là. C'est pour cela, je me suis dit qu'on va quand même étudier ces choses, bien que il n'y a rien de bien nouveau. Quelqu'un un peu avec de jugeote et de bon sens comprend qu'il ne faut pas faire du mal à son prochain. Et tous les exemples qu'on va amener, il y en a beaucoup, sont des choses que quelqu'un qui, a, comme j'ai dit, avec du bon sens, il ne va pas être transgressé. Mais vu que ce sont des choses qui sont extrêmement courantes, et on est habitué à le faire, et qu'on peut facilement donc transgresser cet interdit qui est important, on va quand même les passer en revue, histoire de se renforcer sur cette notion de Balaam Havero, de l'homme envers son prochain, qui est extrêmement importante. Je rappelle une chose que tout le monde sait, Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi générale de toute la Torah. C'est la base. Il est important de mettre l'accent là-dessus. Il est facile de manger kasher. Il est facile de faire Shabbat. Il est même vraiment facile de ne pas être attiré parce qu'il ne faut pas être attiré. Mettre quelqu'un de fin au niveau de ne pas faire du mal à son prochain, c'est un art. Le Chazon Ish écrit dans ses igrotes, dans ses lettres, il dit, je me suis mis une obligation sur moi-même de faire extrêmement attention de ne jamais mettre mon prochain mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est pas un advarim, c'est beaucoup moins grave. Mal à l'aise, oh, des fois, ça arrive. C'est pas faire du mal, c'est mettre mal à l'aise. Mais il s'est mis comme lui une barrière pour pas arriver à l'interdiction dangereuse, grave, de faire du mal à son prochain, même pas mettre mal à l'aise. Ça, c'est les vrais tzadikim. Les grands d'Israël, c'est cela. Et du peu que j'ai pu fréquenter dans ma vie, on a vu une profession, quel calcul, quel hakpada. Faisait attention à chaque petit millimètre, de faire attention à qui, quoi, comment, où. C'est une vraie navigation. Parce que chaque cas, il est nouveau, chaque cas, il faut savoir, il y a les susceptibilités de chacun. Il faut être un artiste. Si quelqu'un fait attention à cela, on peut vraiment lui donner le titre de tzadik. Oui, mon cher ami.
Non, je voulais juste dire, vous avez dit tout de suite, Hachem, il
rapidement.
Peur, alors, on voit des Rechaim pendant très longtemps, ils ne refont rien. Oui, Meshalem les Sonav.
La punition des Rechaim, ça veut dire très souvent que Dieu leur donne dans ce monde-ci ce qu'ils veulent pour les couper du monde à venir. Ça existe aussi. C'est une punition. Quand quelqu'un fait une mitzvah, qui lui donne de l'infini. Et à la place, pour le punir, on lui donne du fini. On parle vraiment des gens, c'est marqué ceux dont Dieu a la haine. C'est rare. Mais s'il y a des gens comme ça, des gens qui sont vraiment très très loin de Dieu, et qui connaissent Dieu, mais ne veulent pas, alors on lui dit, ok, tu veux pas de moi, bon, alors tu me verras pas. Maintenant, tu as fait la mitzvah, tiens, je te paye maintenant. Tu veux quoi? De l'argent? Prends de l'argent. On reçoit de l'argent, tu comprends quelques cochonneries, on reçoit à la place de Olam Haba, à la place de l'infini. Ken. Alors. Comme je commençais à dire, l'interdiction de Onat Dvarim ne concerne pas que la parole, bien que le mot Dvarim, c'est avec la parole, ça concerne aussi les actes ou des fois un manque d'actes. On peut faire Onat Dvarim même si on le fait sans la présence de la personne qui est victime. Par exemple, je remarque qu'il est maintenant mon prochain, je vois son portable, hop, je mets dans la poche, et lui, pendant quelques heures, il tourne, où est mon portable, on pique mon portable. Après, tiens, je te fais une blague, d'accord? Il a souffert, on a transgressé, même si c'est pour rigoler, les fameuses blagues pour rigoler qui font souffrir notre prochain, sont considérées comme une interdiction de Onat Dvarim. Il n'y a pas à rigoler. Quand l'autre, il souffre, et toi, tu rigoles, c'est pas la rigolade, c'est de la cruauté. Si on a un doute, si maintenant, est-ce que je vais lui faire du mal, oui ou non? C'est le même doute qu'on aura dans n'importe quelle loi de la Torah. Je m'attends à un morceau de viande. Est-ce que c'est de la viande qui est cachère ou de la viande qui est taref? Une chance sur deux. C'est ou du cheval ou de la vache. Ou vache et vache, mais de la vache qui a été égorgée, l'autre qui a été tuée par coup de feu. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ou on ne mange pas? On a une loi qui nous dit Sfeka de Horaita le Chumra. Une, quand on a un Safek de Horaita pour une loi qui est de la Torah, qui est marquée noir sur blanc dans la Torah, le Chumra. On prend la sévérité, on ne prend pas de risque. Quand tu as un doute, tu peux faire maintenant du mal à ton prochain, tu ne prends pas de risque. Tu dis pas, il y avait une chance sur deux que je ne fasse pas de mal. Il y avait une chance sur deux que je fasse oui du mal. Donc, faire attention à cela. En action aussi. Comment en action? Quelqu'un n'aime pas se faire photographier. Tu le photographies. Ou bien, je ne le dérange pas qu'on photographie, mais après, tu as mis sur Internet sa photo. Et lui, ça le dérange. Tu n'as pas le droit. Tu lui fais du mal. Interdiction. Si on ne savait pas que ça ferait du mal à notre prochain, on n'y pense absolument pas. Et par erreur, ça fait du mal à notre prochain, là on est complètement blanchi. C'est-à-dire que l'interdit ici, contrairement à notre interdit, si quelqu'un maintenant il a mangé de la viande taref, béchogeg, sachant pas que c'était de la viande qui était interdite. Bon, c'est pas de sa faute, mais néanmoins il a mangé de la viande interdite, elle se trouve dans son corps. Il allumait la lumière Shabbat, il ne savait pas qu'en faisant un acte comme ça, ça provoquait l'allumage de la lumière. Il ne savait pas, il marche dans un couloir, trouve qu'il y a une cellule photoélectrique, tac, ça allume. C'est pas de sa faute, mais néanmoins, il a transgressé de façon involontaire. Donc, il y aura, on dira, il a transgressé involontairement. Ici, au niveau de Noa Dvarim, si c'est involontaire, il n'y a pas de transgression du tout. L'interdit, il est dans ton corps. Quand toi, maintenant, tu as une intention mauvaise dans ton corps, alors, dans ce cas-là, tu transgresses. Si tu n'as aucune intention mauvaise, tu as fait attention, et malgré tout, un malheur est arrivé. Tu as posé ton pied, et par hasard, l'autre il a posé son pied dessous. D'accord? On est dans un mariage, on danse, et lui, pas quand tu poses ton pied, ça va, c'est gentil. On a eu un mariage il y a 3-4 mois, je suis dû avec un de mes élèves partir à l'hôpital, parce qu'il a reçu, un bon coup dans la cheville, d'accord? C'était involontaire, on a dansé, et hop, boum, quelqu'un a reçu, on ne sait pas dire de qui. Il a reçu un coup de la cheville, il avait une cheville comme ça, d'accord? Il est certain que celui qui a dansé n'a pas fait d'interdiction, dans la mesure où il a dansé de façon prudente, normale. Si quelqu'un, de façon involontaire, il fait du mal à son prochain, mais il y avait ici de la, ce qu'on appelle en hébreu, de la rachlanout, ça veut dire, exactement, de la négligence. Il aurait dû faire attention. Tu danses, t'as des talons lourds, d'accord? Et tu danses de façon non stable, d'accord? Et tes jambes partent de tous les côtés. Il y a une chance que tu mettes un coup à quelqu'un. Ça, c'est certain que c'est pas bien. C'est de la négligence. T'as fait du mal. Tu voulais pas lui faire du mal, mais t'as fait du mal par négligence. Quelqu'un, à 2h du matin, il appelle son copain. Tac, 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 tac. Allô, oui? Excuse-moi, c'est une erreur. T'as réveillé quelqu'un. Par erreur. C'est pas de ta faute. Mais quand on appelle quelqu'un à 2h du matin, on regarde le téléphone qu'on fait, pas se tromper, parce que réveiller quelqu'un au milieu de la nuit, c'est un advarim. Donc si on a un autre exemple, quelqu'un a fixé un rendez-vous pour le mois prochain, et toi tu comptes sur ta mémoire qui est toujours infaillible, et évidemment elle est faillible. Et voici qu'au rendez-vous tu ne viens pas, et lui il poirote une heure à t'attendre. T'as voulu, de façon volontaire, lui faire du mal? Non. Mais vu qu'il y a eu ici une négligence, alors tu transgresses un advarim quand même. Ce qu'on a dit maintenant qu'on ne transgresse pas, c'est quand c'est vraiment j'étais clean. Moi, j'ai fait les choses normalement comme il fallait. J'ai dansé normalement, j'ai appelé au téléphone normalement. La compagnie de téléphone, il y a un câble qui est parti tordu, qui réveille, il y a un problème, un dérangement de téléphone, c'est appeler quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment je suis contraint. C'est pas de ma faute. Dans ce cas-là, on ne transgresse pas l'interdit de Onat Varim. Dans tous les cas, on a transgressé. On a fait du mal à son prochain de façon involontaire. J'étais vraiment clean. J'ai pas fait de façon volontaire. Néanmoins, je lui ai fait du mal. Il est bien de demander pardon. Car on a vu dans la Gemara des cas où la personne était complètement involontaire, mais néanmoins, du ciel, une rigueur contre lui, une akpada, comment on dit ça? Oui, je vais donner un exemple. Alors, il y a une histoire dans la Gemara. Il faut dire aussi, il faut bien préciser, tout dépend aussi à qui on a fait du mal. Quand on a vu maintenant une femme ou sa femme, vu qu'elle est plus sensible de façon naturelle, le mal qu'on lui ferait sera plus grand que si on fait à une autre personne. Pour le même acte que je fais à un ou à l'autre, il y a un mal plus grand qui est fait.
l'histoire que je vais raconter maintenant, qui est racontée dans la Gemara dans Bava Kamma, page 117, parle de deux les plus grands rabbins du monde. Et entre eux, il y a eu une histoire. Et ça, effectivement, quand on parle de grands, grands rabbins, quand ils sont touchés, dans le ciel, quelque part, on veut venger leur lui, il a mal. Donc dans le ciel, ça agit déjà. Bien que l'autre ne l'a fait aucun mal de façon volontaire, ça agit déjà. Il y a une histoire terrible. Rav Kahana a fait un acte un peu... il a manqué de respect à un rabbin en Babylone. Et pour cela, ce rabbin lui a dit, bon, pour réparer ça, il faut que tu partes maintenant en terre d'Israël, en exil. Tu vas aller étudier chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le grand de la génération en terre d'Israël. Et Rav Kahana était un des grands aussi en terre de Babylonie. Mais pour réparer ce que tu as fait, 7 ans, tu devras rester là-bas chez élève chez Rabbi Yochanan. Tu pourras jamais ouvrir la bouche pour, dans le monde des yeshivot, quand quelqu'un ravit quelque chose, tu le rentres dedans. On n'est pas d'accord avec rien. Et plus la personne, elle est puissante au niveau de son cerveau, au niveau de ses connaissances, donc elle peut remettre en question les paroles du rab. Et comme ça, de cela, du bouillonnement des deux esprits, la vraie Torah, elle, est mise en relief. C'est très dur pour quelqu'un qui peut dire, ne rien dire, c'est terrible. Rav Kahana vient, était connu. Alors, il vient chez Rabbi Yochanan, et Resh Lakish, c'était l'ami, élève et ami de Rabbi Yochanan, lui dit, « Ari Alam Ibael, un lion est monté de Babylonie. » Bon, on le met au premier rang. Rabbi Yochanan rentre, tout le monde se lève, et Rabbi Yochanan commence le shiur. Et Rav Kahana, on attend qu'il Rabbi Yochanan dit quelque chose, pose une question à... personne ne répond. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Rav Kahana après le premier cours, on le met deuxième rang. On voit qu'il n'est pas aussi... Bon. De nouveau, shiur, tout ça, Rabbi Yochanan dit des choses, tout le monde discute, Rav Kahana, il dit rien du tout. Et il n'a pas le droit de parler, 7 ans. Bon, comme ça, on le met au troisième rang. Hein? Non, justement, tout le truc, c'est qu'il devait, pour réparer sa faute qu'il a fait en Babylonie, 7 ans, il devait rien dire du tout. 7 cours, on le remet, tac, 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 7e rang. La honte terrible. Il a dit que ces 7 rangs qu'on m'a reculé comme ça soient considérés à la place des 7 ans que j'aurais dû souffrir à rien dire. Le 8e cours, il vient et commence. Tac, 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 tac. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan, j'ai oublié de dire, Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, son ami, dis donc, il semblerait que le lion que tu nous as amené de Babylonie, c'est plutôt un renard, hein, c'est un chou, c'est rien du tout. Et évidemment, ça s'est su, et Rav Kahana, il a souffert de cela. Bon, il dit, maintenant, vu que j'ai souffert ce que je vais souffrir, c'est bon, je remonte. 8e cours, il commence, tac, chaque chose que Rabbi Yochanan dit, il est maqué, il prend des couchillots, des objections, tac, et on le remonte, tac, premier, tout ça, il revient au premier rang, et là, commence à raconter à Gemara qu'il y avait aussi des sièges. Alors Rabbi Yochanan, je vous pose une question, Rav Kahana, tac, objection. Alors on baisse Rabbi Yochanan d'un siège, et au Rav Kahana, on le monte. Je sais pas si c'est, je pense que c'était imagé. Mais néanmoins, ça fait comme ça. Rabbi Yochanan pose une question, Rav Kahana répond. Pour une objection, Rabbi Yochanan ne sait pas répondre. On le descend. Rav Kahana monte. Encore objection. Rabbi Yochanan descend. Rav Kahana monte. À la fin, hein, Rav Kahana a même hauteur que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, le Talmud dit qu'il a vécu 400 ans. Il est extrêmement vieux. Et il voyait rien du tout. Il avait, c'est marqué que ses sourcils tombaient sur ses yeux. Il pouvait rien voir tellement il avait. Il a voulu voir qui était ce Rav Kahana dont on parle, ce lion. Avec des pincettes délicatement, on lui a soulevé comme ça les sourcils. Il a vu la bouche de Rav Kahana. Rav Kahana, il a un problème. Il avait ici, depuis de naissance, il avait la bouche qui était, les lèvres qui étaient ouvertes. Alors ça faisait comme s'il souriait, comme ça. Ben, il ne souriait pas, d'accord, c'était très sérieux, mais il avait une tête comme s'il souriait. Rabbi Yochanan a cru que Rav Kahana se moquait de lui. Nénénén, tu vois. Ça lui fait très mal. Rabbi Yochanan, il a eu tellement mal de cela. Le lendemain, Rav Kahana, il est mort. Mort. Alors on voit que Rav Kahana est complètement involontaire. C'est pas de sa faute, il est né comme ça. Mais du ciel, Rabbi Yochanan, il a été touché. Il n'a pas voulu que Rav Kahana meure, mais du ciel, quelque part, tu as touché maintenant Rabbi Yochanan. Il faut voir ce qui est Rabbi Yochanan. C'est lui qui a écrit tout le Talmud de Jérusalem. D'accord, c'est pas rigolo. Un moment. C'est là que Mara a dit que Choufré, Rabbi Yochanan qui Choufré
d'Adam Arishon. On dit que Rabbi Yochanan, sa beauté était, celle, était comme celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, sa beauté était comme celle du premier homme. Donc on parle de choses très profondes. C'est un homme très, 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 très grand. Quand Rabbi Yochanan a su, a appris que Rabbi Yochanan était mort, est allé vers sa tombe et il lui a parlé. Il lui a dit, je te ressuscite. Rabbi Yochanan, c'est pas un problème pour lui de ressusciter Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, non, une fois que j'ai déjà souffert maintenant la souffrance de la mort, je parle ça une deuxième fois, c'est trop dur, je suis bien où je suis, salam alek, tout va très bien, comme ça l'histoire, elle
parce
finit.
Que Rabbi Yochanan, il s'est rendu compte que, en fait, que c'était pas
de
sa faute.
Oui, on lui a dit, le pauvre, c'est pas de sa faute. Oui, ta question.
C'est, même si la personne qui est blessée, elle n'en veut pas, la personne qui l'a agressée, la sentence s'exerce. Parce qu'on apprend qu'on peut pas en vouloir la personne qui nous a fait du mal, etc. Ça vient de nous, ça vient de...
Mais alors, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit ici en introduction, on parle de géants, on parle de presque anges, d'accord ? Au niveau de ces géants-là, ça a fait que, maintenant, il faut expliquer tout un peu mieux, si Rav Kana est vraiment complètement nickel, alors comment ça se fait qu'il meurt d'une chose pareille ? Les commentateurs disent, ok, il avait aussi d'autres factures, d'accord ? De autres choses, qu'on a fait que cet accident arrive... pour qu'il, quelque part, il répare les autres factures qu'il avait. C'est pour cela qu'il est important, si jamais on a fait du mal à quelqu'un, de, même si c'est complètement volontaire, on dit, excuse-moi, quelqu'un a marché sur ton... Je danse en faisant pas attention, tac, j'éclate le genou de mon voisin. Désolé, c'est la moindre des choses, d'accord. C'est des choses qui sont évidentes dans le savoir-vivre. Même si on a fait du mal de façon involontaire, et nous sommes considérés involontaires, on n'a pas transgressé l'interdit de Onan Dvarim. Non, moi, il y a nécessité de demander pardon. Parce que sinon, lui aussi peut dire, ok, tu m'as fait du mal, et oh, j'existe. Dis au moins, excuse-moi, c'est involontaire. Les choses sont évidentes, mais il faut quand même les rappeler.
Ah, même si c'est 10 ans après ?
Oui.
Si je me rappelle, j'ai écrasé le pied de quelqu'un il y a
3
ans dans un mariage.
Bon, il va dire que t'es complètement fou. Tu l'as, c'est quoi écrasé ? T'as marché sur le pied il y a 3 ans, je lui dis, excuse-moi, je marche sur le pied, il va dire, t'as un problème. Tu l'as écrasé le pied. D'accord, à l'hôpital, il dira, ah bah ça fait déjà 3 ans que j'attends que je vais me dire pardon, c'est pas trop tôt, mais j'apprécie quand même. Tout dépend, en qui, quoi, quand, c'est pas...
Alors si quelqu'un m'a agressé de façon volontaire,
oui.
Moi j'ai pas à lui en vouloir, d'accord ?
C'est vrai.
Donc est-ce que malgré tout, il y aura une sentence qui va s'exercer contre lui ?
Oui, bien sûr, lui a transgressé.
Même si je lui en veux pas ?
Oui, t'as souffert. Je pense pas que, quand on parle de Rabbi Yochanan, on a voulu à Rav Kahana, jamais de la vie, mais il était touché. Dolador, la grande génération, quelqu'un vient et on le montre comme ça et maintenant il rit. C'est vrai que ça fait mal, non ? C'est pas très facile.
Et juste, si on vient faire un reproche à quelqu'un, on n'a pas l'intention de lui faire du mal, est-ce que ça rentre dans la catégorie de la façon qu'on est blessé sans faire du mal ?
Alors, il y a le mitzvah de corriger son prochain si on voit qu'il fait une chose qui n'est pas bien. Cette mitzvah se fait avec beaucoup de douceur parce que dans la même phrase de la Torah qui nous dit qu'on a le droit de corriger, qu'on a le mitzvah de corriger. Hocheach, tocheach et ametecha. Que tu corrigeras ton prochain. Il y a une fin de ce verset. Velo tisa alavret. Et tu ne feras pas de péché contre lui. De quel péché on parle? De lui faire honte. Même si c'est pas en public. Tu lui fais honte en lui faisant ce reproche. Lui, il a honte. Il n'est pas à l'aise de ce que tu as fait. Donc, il faut extrêmement de douceur pour arriver à faire cette mitzvah. Chazonich a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable dans notre génération de faire une tochecha, de faire une correction comme il se doit. Je ne désengage pas de l'obligation de le faire. Même des fois, on peut le faire plus durement si c'est nécessaire. Mais attention de ne pas faire honte. On verra que dans ces lois qui concernent en advarim de ne pas faire du mal à son prochain, il y a une extension qui est beaucoup plus grave qui est celle de faire honte à son prochain. Mais la honte, c'est un mal qui est beaucoup plus grand que simplement faire du mal. La honte, c'est une chose qui est très très grave, comme on le verra ultérieurement.
Si quelqu'un m'a fait du mal, donc j'ai été mochel, est-ce que j'ai le devoir pour le mal qu'il m'a fait ? Parce qu'il y a peut-être un dû quelque part qui reste... de lui dire que tu m'as fait du mal, je suis mochel, mais il y a 10 ans, je peux faire
un
mal.
Oui, absolument. C'est une mitzvah, absolument. On dit que c'est à Shabbat Aveda. Si quelqu'un a perdu maintenant son porte-monnaie, et il y a son nom dessus, tu as une mitzvah de lui ramener son porte-monnaie. Attends, quelqu'un a perdu son porte-monnaie physique, des fois il a perdu de l'argent spirituel, il a perdu maintenant quoi ? Il ne sait pas qui t'a fait du mal. Il n'a pas fait attention, il a oublié. Toi maintenant, tu as complètement excusé le mal qui a été fait, mais maintenant tu as une mitzvah, que lui dans le ciel, il a une dette. S'il va maintenant, tu lui donnes le moyen de réparer sa dette, tu fais absolument une grande mitzvah. Mais attention avec beaucoup de douceur. Si quelqu'un ne veut pas faire du mal à son prochain, mais il sait qu'en faisant l'acte X, ça va provoquer du mal. Parce que maintenant, on a dit que faire du mal, c'est quand je veux faire du mal à mon prochain. Là, on dit un peu différemment. Je ne veux pas faire du mal à mon prochain, mais je sais qu'en faisant cet acte-là, ça fera du mal à mon prochain. C'est aussi interdit. Parce que tu, c'est, ça rentre dans le cas de négligence. C'est même plus fort que négligence. Parce que tu, c'est pas négligence, tu as des, il y a des chances que, vu que je ne fais pas attention à qui j'appelle à 2h du matin, quand je danse de façon incohérente, alors je risque de faire du mal, mais c'est qu'un risque. Là, je sais que ça fera du mal à mon prochain. Mais je dis, ok, moi, je ne veux pas lui faire du mal. Si c'est les lois de la nature qui font que si maintenant j'agis, ça fera du mal. C'est interdit, parce que tu sais personnellement que ça fera du mal à ton prochain. Le seul cas où c'est permis, c'est quand le mal qu'aura mon prochain provient de ses mauvaises midotes à lui. Genre, je veux maintenant, on est deux copains ici à la yeshiva. Un maintenant va acheter une voiture. Et les moyens. L'autre, son copain de chambre, n'a pas les moyens. Et son copain de chambre rêve d'acheter une voiture. Il n'a pas les moyens. Bon, moi maintenant, j'ai les moyens. J'ai besoin d'une voiture, j'achète la voiture. Je sais pertinemment que mon copain, il va en souffrir. Je sais qu'il est. C'est pas un homme qui est très bon, c'est un homme qui est un peu petit. Et il va jalouser le fait qu'il a acheté une voiture. Il sera vert de jalousie. Il va pas endormir 6 mois. Quand j'achète la voiture, je sais pertinemment maintenant que je vais faire du mal à mon prochain parce qu'il va me jalouser. Est-ce que c'est permis ou non? C'est complètement permis. Parce que l'autre a un problème, qu'il n'a pas à être jaloux. Mais si maintenant je lui fais du mal qui n'est pas provoqué par ses mauvais traits de caractère, dans ce cas-là, c'est moi qui est fautif. Shulchan Aruch amène quelques exemples de cas de Onat Dvarim, de faire du mal à son prochain. Ce sont encore une fois des choses que tout le monde peut comprendre, mais normalement on va les citer vu que le Shulchan Aruch les cite. Première chose, rappeler le passé mauvais qu'a fait quelqu'un. Un Baal Tshuva. Hier, il était en boîte. Hier, c'est-à-dire hier, il y a 2-3 ans, il était en boîte. C'est un type qui était complètement à haute, il fréquentait tout ce qu'il ne fallait pas fréquenter. Puis un jour, il devient rabbin avec une barre et un ancien copain lui dit, bah dis donc, toi, aujourd'hui, rabbin, je me souviens que tu as fait les 400 coups. Franchement, elle te va bien, la barbe. On lui fait honte. On a transgressé. Pas besoin que ce soit un grand Baal Tshuva qui avait 2-3 ans avec son passé. Ça peut être des choses qui sont très... Quelqu'un à table, il y a un cours, il dit, chut, taisez-vous. L'autre lui dit, t'es bien placé, toi, pour dire taisez-vous. C'est toi qui fais toujours le plus de bruit ici. Lui, aujourd'hui, il a décidé, moi, dès aujourd'hui, je serai le plus sage du cours. Il a décidé maintenant d'être sage. On dit, tu travailles maintenant, hein, grand sadique. Ça, là, pendant 6 mois, t'as mis la zizanie t'as mis tout le tu fais le plus grand dérangeur de ce chiour, de ce cours, et maintenant, t'es une grande sadique qui te tait. Lui, maintenant, il veut changer. En lui rappelant son passé, tu lui fais de la souffrance. C'est interdit. Non seulement, peut-être avant le non seulement, c'est un cas, hélas, très courant. Ça concerne plutôt les femmes. Les hommes aussi, mais plus les femmes. Pourquoi? La Gemara dit que l'homme a été créé de la terre. La femme a été créée de la côte. L'homme, quand on lui marche dessus, il n'aime pas. Mais il peut s'écraser plus facilement que la femme, parce qu'il est créé de la terre. La terre, on marche dessus de toute façon. La femme est créée de la côte. La côte, c'est plus dur. C'est plus dur pour elle d'oublier. Ça, c'est la façon imagée que donne Chazal. La réalité, elle est suivante. La femme, de par sa nature, est plus sentimentale. Je ne veux pas être misogyne, qu'on ne me comprenne pas mal. Les hommes et les femmes sont à la fois sentimentaux et à la fois rationnels. Mais l'identité masculine est plus rationnelle que l'identité féminine. C'est comme ça. Les deux sont rationnels et sentimentaux. Mais l'homme, il est dans sa d'habitude plus rationnel que la femme. La femme est plus sentimentale. Prends-moi que tu amènes un bouquet de fleurs à un garçon pour son anniversaire. Bon, c'est très gentil. Et tu amènes une perceuse électrique à sa femme pour son anniversaire. C'est très gentil aussi. Mais tout le monde comprend que c'est un peu déplacé. Pourquoi? Parce que l'homme, il est pratique. Il est plus pratique. Non, une perceuse, c'est ce qui me fait d'accord. Et les fleurs, c'est joli. Après 2 jours, sa femme. Mais la femme, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme, Baruch Hashem. La femme étant plus sentimentale, lorsqu'il y a eu une fois une bagarre à la maison, il y a quelque chose, après, on s'est expliqué, l'homme a demandé pardon, affaire classée. Affaire classée, c'est réglé. Rationnellement, tout a été réglé. L'homme, il a fait carpette, il a demandé pardon comme il faut. Flac, dossier réglé. 5 ans plus tard, rebelote, elle dit, non seulement maintenant, mais aussi il y a 5 ans qu'on fait le même truc. Et puis, elle rajoute sur l'histoire de maintenant, toute l'histoire d'il y a 5 ans, elle se met devant. Mais lui, il comprend rien, je comprends pas. Mais il y a 5 ans, c'était réglé, dossier classé, terminé. Pourquoi tu mets ça sur le tapis? Tout à fait classique. Pourquoi la femme, c'est vrai, rationnellement, c'est réglé. Mais émotivement, sentimentalement, cette chose-là, elle fait mal. Quand il y pense, elle a mal. Nous tous, quand on a fait du mal, c'est dur pour nous d'enlever la douleur et l'encolle. Alors, on arrive à rationnellement dire, ok, ça n'a rien à voir maintenant, mets de côté. Elle, dans le feu de la... Ça peut être lui aussi. Mais c'est plus souvent, comme je dis, chez la femme. Elle remet ça sur le tapis de façon tout à fait irrationnelle et de façon tout à fait, oui, sentimentale. Quand la femme rappelle une chose qui a déjà été, ou l'homme, peu importe, rappellera une chose qui est classée depuis longtemps, et ça fera mal à son conjoint ou à un autre, elle transgresse on a dvarim, parce que c'est tout à fait déplacé. Le cas qui peut arriver, ça arrive très souvent dans des couples, t'as une femme, elle a 80 ans, son mari a 85 ans. Elle lui dit, je me souviens, quand mon premier fils est né, j'avais 20 ans, t'es même pas venu à l'hôpital me visiter. 60 ans sont passés. Alors, ben, quand ça. Il lui dit, ça va, je t'ai demandé pardon, je me suis excusé, je t'ai pris à Venise pendant une semaine pour que tu me pardonnes ça, tu m'as dit, c'est bon, c'est pardonné, je m'excuse. Pendant 60 ans, elle retire encore l'histoire. Chaque fois qu'elle rappelle cette histoire à son mari, elle transgresse l'interdiction de Onat Dvarim. J'ai une fois un élève, le pauvre. Sa femme, une fois, m'a appelé 4-5 ans après le mariage, 10 ans après le mariage. Et quand elle s'est plainte sur quelque chose qui s'est passé au mariage, je lui ai rappelé ça, le pauvre s'est mis à pleurer. Mais tous les mois, elle me rappelle cette chose. Le pauvre, quand ils sont sortis du mariage, lui, il est parti 4 pas avant elle, sans l'attendre. Elle a été très touchée par ça. Comment, en sortant de la roupa, faites attention, messieurs, quand vous entrez au roupa, ceux qui vont se marier là bientôt, on s'en passe, on la femme, on l'attend, tout ça. Et voilà, elle n'oublie pas, c'est... L'homme aussi, il peut être comme ça. Chaque fois que nous allons rappeler à quelqu'un une chose ancienne, tu m'as fait du mal, alors que c'est déplacé dans la discussion, ce problème était déjà classé, réglé, terminé, on transgresse, on a dvarim. Ça, c'est dans le cadre des choses, ne pas rappeler le passé de quelqu'un. Le passé d'un Baal Tshuva, le passé de quelqu'un qui a changé maintenant, qui veut devenir mieux, ou le passé d'un conjoint ou un ami qui nous a fait du mal dans le passé. Vous me dites quand c'est l'heure, hein? Je crois que c'est déjà l'heure. Bon, on va s'arrêter ici pour le moment. La suite, la prochaine fois, Baruch Adonai. Voilà, Maman Amen.